C'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Evelyne Fontane, à chaque dimanche, midi, 13h, sur RCFM.
Sortez vos édredons, couettes et coussins, fermez vos volets et vos paupières et laissez-vous envahir par le sommeil. Surprenant quand même, hein, comme entrée en matière, pour une émission qui d'habitude vous conseille d'être vif et à l'écoute. Eh bien, ce nouveau numéro de C'est votre jour de science veut redonner ses lettres de noblesse à l'assoupissement, l'endormissement, la sieste, la somnolence, le somme, tous indispensables pour mettre notre santé en valeur et pourtant longtemps considérés comme des marques de fainéantise et de perte de temps. Une émission qui fera du bien à celui qui dort 2 heures par nuit pour rédiger ses chroniques végétales, pour dédicacer son livre des plantes et des hommes aux quatre coins de la Corse et pour gérer avec brio le parc Galéa où il accueillera dans une petite heure l'invité d'aujourd'hui.
Bonjour Evelyne, bonjour à tous. Et c'est vrai que ça fait plaisir ce type d'émission. On va être avec le neurobiologiste Claude Gonfier dans quelques minutes. Et effectivement, dans quelques dizaines de minutes, il sera avec nous en direct au Parc Galéa. On le rappellera tout à l'heure. Alors notre invité du jour est un chercheur attaché au département de chronobiologie de l'INSERM de Bron, près de Lyon. Il est spécialiste reconnu des rythmes biologiques, du sommeil et plus spécifiquement encore des effets de la lumière sur ce dernier. Notre invité est également membre du Conseil scientifique de la Société européenne de recherche sur le sommeil et membre affilié aux Centres européens de chronobiologie humaine. Il a par ailleurs collaboré à plusieurs ouvrages, je cite les mécanismes du soleil, du sommeil.
C'est un signe.
Aux éditions Le Pommier, les mécanismes donc du sommeil, en finir avec le blues de l'hiver ou les troubles du rythme veille-sommeil. On est donc, vous l'avez compris, pas prêt de s'endormir avec lui aujourd'hui.
Béni soit celui qui inventa le sommeil. Ça n'est pas de moi, c'est de Cervantes. Mais avant de glisser et de nous abandonner à un sommeil profond, revenons à notre dernière énigme.
Oui, alors la semaine dernière, on cherchait dans une émission consacrée aux Indiens d'Amérique, avec l'anthropologue Fabrice Del Saüt, le nom d'un personnage célèbre du Far West, répondant à l'époque à cette définition. En d'autres lieux, j'aurais pu être une fiancée de Tarzan, des plus catastrophiques. Et il s'agissait, vous l'avez aviez trouvé, vous me l'avez dit hors antenne, évidemment, parmi les réponses que vous avez trouvées cette année, celle-là y figurait, de Calamity Jane, fiancée catastrophique de Tarzan. C'est Emmanuel avec 2LE, une fille d'Ajaccio, qui a été la plus rapide et remporte donc le livre des plantes et des hommes, publié aux éditions Galéa.
C'était notre
Oui, je ne sais pas où vous voulez en venir, allez-y. Notre Calamity Jane.
Allez, justement, je manque de sommeil, vous avez compris, et ça aussi, ça a un impact sur l'addiction. Aujourd'hui, le sommeil est devenu un problème de santé publique, puisque un Français sur deux ne dort pas assez ou est insomniaque. On reconnaît enfin que cet état est indispensable pour retraiter les informations enregistrées dans la journée, pour être en forme, pour garder le moral, pour une meilleure construction cérébrale et une meilleure mémoire. Mais pas facile de mettre nos systèmes d'éveil au repos dans un monde qui nous offre des stimulations continues et considère que fermer l'œil est une perte de temps. Vous l'avez compris dans cette émission aujourd'hui, sommeil et rythme chronobiologique sont à l'honneur.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonjour Claude Gonfier.
Oui, bonjour.
Bonjour Claude.
Bonjour Fabrice.
On est ravis de vous accueillir Claude. Est-ce que le bilan que je viens de dresser n'est pas un peu alarmiste ou est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Est-ce que vraiment on souffre tous en moyenne, un Français sur deux, d'un problème de sommeil?
Alors oui, tout à fait. Je souscris absolument à ce que vous venez de dire. Je crois qu'on pourrait même être encore plus alarmiste parce que souvent quand on parle du manque de sommeil, on imagine ces individus qui sont insomniaques, ceux qui ont beaucoup de mal soit à s'endormir, soit à rester endormis le matin, ou ceux qui ont la sensation de très très peu dormir pendant leur nuit. Ça, ce sont les insomniaques. Mais en vérité, beaucoup de gens s'ignorent en dette de sommeil et souffrent de ce manque de sommeil sans s'en apercevoir. Donc si on prend en compte les gens qui souffrent de pathologies ou qui pensent souffrir de pathologies et ceux qui sont en dette de sommeil parce qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie, mauvaise hygiène de sommeil, mauvaise hygiène de lumière, je crois qu'on va y revenir, c'est en fait beaucoup plus alarmiste que cela.
Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en préparant cette émission, là, quand on est arrivé avec Evelyne jusqu'au studio, on est derrière ses micros, eh bien, quand on a croisé nos collègues de la radio, tous disaient effectivement, bah, vous faites une émission sur le sommeil, je vais t'écouter,
ça me
concerne. Jusqu'au technicien qui est à côté de nous, Doumé, qui disait, moi aussi, là, ça, c'est très concernant comme émission. Eh bien, c'est quoi finalement une bonne hygiène? Alors, c'est très large, hein, on va vraiment rentrer dans les détails tranquillement avec vous, Claude Gonfier. Une bonne hygiène de vie pour qu'on ait un bon sommeil, ce serait quoi dans les grandes lignes?
Eh bien, ce serait, premièrement, prendre soin de son sommeil, c'est-à-dire aller au lit quand l'organisme nous fait ressentir qu'il est l'heure d'y aller et cesser de résister. En général, on a tous tendance à résister au sommeil et quand les premiers signes se font sentir, quand les paupières sont lourdes, en fin de soirée, eh bien, on va se réactiver, on va se lever, on va ne pas se laisser aller, et donc c'est cela le problème. Donc la bonne hygiène de sommeil, c'est ça. C'est certainement commencer par s'écouter.
Parmi les signes, hein, avant-coureurs d'un sommeil qui pointe, il y a ces paupières lourdes, c'est vrai, hein, qu'on le ressent. Puis le bâillement aussi. Est-ce que le bâillement est véritablement un signe? Parce qu'on peut bâiller dans la journée, on ne sent pas forcément le besoin d'aller tout de suite au lit.
Alors oui, le bâillement, c'est un phénomène intéressant. Il y a quelques chercheurs qui s'intéressent à ce phénomène. C'est très complexe. Effectivement, il apparaît que le bâillement est souvent associé à une sensation de fatigue. On pense aussi que le bâillement, puisqu'il se fait ressentir quelquefois pendant la journée, alors qu'il n'y a pas nécessairement de pression de sommeil ou de sensation de fatigue, on pense qu'il participe aussi à une sorte de phénomène d'oxygénation, comme si l'organisme avait besoin d'un petit coup de pouce. Et donc, le bâillement va se faire va prendre place pour finalement réactiver un petit peu l'organisme. Alors, soit parce que l'organisme est en dette de sommeil, dans certains cas, peut-être que c'est le cas, même certains qui bâillent le matin, eh bien, peut-être bien qu'ils sont en telle dette de sommeil que ce bâillement-là va les aider à repartir. Mais très clairement, en fin de journée, on pense qu'il s'agit là d'un signe avant-coureur à respecter.
Mais Claude, est-ce qu'on a exactement les mêmes besoins, Fabrice, moi, un enfant, une personne âgée, la quantité de sommeil nécessaire pour nous faire du bien, pour nous permettre de récupérer?
Alors ça, c'est une bonne question aussi. Évidemment, on a tendance à penser que chez l'être humain, la durée de sommeil est environ de 8 heures et la durée de veille est de 16 heures par jour. Et ça va constituer notre journée de 24 heures. Mais évidemment, on a des besoins qui peuvent être très différents selon l'âge. Les enfants, un enfant de 10 ans a besoin d'un minimum de 10 heures de sommeil en moyenne par jour. Quelqu'un qui aura une vingtaine ou une trentaine d'années aura besoin entre 8 heures et 9 heures de sommeil par jour. Et puis quelqu'un qui aura 60 ou 70 ans, eh bien, quelquefois aura la sensation qu'il n'aura besoin que de 7 heures ou 6 heures de sommeil, tout simplement parce qu'il ne peut pas dormir plus. En vérité, il a vraisemblablement lui aussi besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Donc je voulais juste rajouter, en fait, les besoins donc évoluent évidemment en fonction de l'âge. Ils évoluent aussi en fonction du sexe. Les femmes dorment en moyenne, d'après les études, entre 30 et 45 minutes de plus par 24 heures. Ça, c'est une moyenne. Et puis, le dernier point, c'est les besoins changent en fonction de notre activité. Selon qu'on va avoir une activité physique ou mentale très importante pendant la journée, eh bien les besoins de sommeil vont éventuellement s'accroître pendant la nuit qui va suivre.
Et selon notre travail aussi, oui. Fabrice aussi. Oui, il y a des gens qui sont plus ou moins stressés. Hein.
Ouais. Oui. Est-ce qu'on connaît justement les causes du manque de sommeil ou les causes de fatigue, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne se sent pas bien et que l'horloge semble déréglée? On va revenir sur cette idée d'horloge biologique un peu plus tard.
Ce qu'on commence à comprendre, c'est que le sommeil, c'est un phénomène, un mécanisme qui est particulièrement fragile. Et il faut y prendre garde. Il faut y prendre garde parce que si justement on ne prend pas soin de son sommeil, eh bien, il va être de mauvaise qualité. Évidemment, j'évoquais tout à l'heure cette notion d'hygiène de sommeil. Il est évidemment très important de prendre soin à laisser le sommeil s'installer le soir. Au lieu de s'activer, au lieu de tenter de travailler jusqu'à la dernière minute, par exemple, pour ceux qui ont du travail à faire pour le lendemain, etc., eh bien, il faut prévoir cette sorte de petits coussins de sécurité, de ces petites fenêtres de temps avant l'heure de sommeil souhaitée, qui va permettre au sommeil de s'installer, à la somnolence de s'exprimer, et donc de permettre un endormissement, par exemple à 23 heures si c'est notre heure de sommeil souhaitée, et ne pas retarder le sommeil jusqu'à minuit ou une heure du matin si, par exemple, on consomme un peu trop d'écran, on est exposé à trop de lumière de ces écrans.
On va venir très précisément, parce que vous êtes un des grands experts à minima nationaux sur cette question des écrans, de la lumière. Hein, c'est vraiment une des spécialités que vous êtes faites. Est-ce que vous pouvez simplement nous préciser que ce qui se passe en termes d'horloge interne, c'est dans une toute petite structure de moins d'1 millimètre cube logée au cœur du cerveau?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une structure qui a été découverte en 1970. Alors, les plus jeunes des auditeurs vont sans doute se dire « Oh là là, c'est la préhistoire !» Mais en fait, à l'échelle de la science, c'est très récent. Et on a découvert cette structure chez le mammifère, chez le rongeur. Et puis, évidemment, par la suite, on a observé qu'elle était chez tous les mammifères. Eh bien, elle est effectivement toute petite. Et c'est elle qui gouverne les rythmes circadiens. On appelle les rythmes circadiens. Ce sont des rythmes de 24 heures, plus ou moins quelques dizaines de minutes, et qui permettent, par exemple, d'exprimer le sommeil pendant la nuit, d'exprimer une chute de température pendant la nuit, qui sera très utile pour l'installation du sommeil, de permettre, par exemple, une bonne division cellulaire pendant la nuit, là encore. Et puis la journée, ce sera le contraire. Cette horloge, elle va permettre d'exprimer une bonne vigilance, de bonnes performances cognitives, de bonnes performances motrices. Bref, l'horloge, on la considère à l'heure actuelle comme un chef d'orchestre qui va avoir pour objectif de déclencher des réactions biologiques au bon moment et de stopper d'autres réactions à d'autres moments, de manière à ce que la veille soit de bonne qualité pendant la journée et le sommeil de bonne qualité pendant la nuit.
Un chef d'orchestre de la taille d'une tête d'épingle.
C'est incroyable,
dans notre cerveau qui rythme notre corps et qui va injecter des choses en fonction de ses besoins ou de ses attentes.
Ce qui est intéressant aussi, j'y pensais, souvent le sommeil est symbolisé par un train, pour l'expliquer aux enfants, et on explique souvent que si on rate la première phase d'endormissement, ce premier wagon, eh bien, tout le reste du sommeil va être perturbé. On n'a pas notre quantité nécessaire. D'où l'importance de ne pas lutter, de sentir quand on a les premiers signes d'endormissement, mais de respecter l'envie du corps.
Oui, c'est très juste. C'est tout à fait exact. On a longtemps pensé, effectivement, que si l'on ratait ces premières heures de la nuit, et en particulier les heures avant minuit, on entend souvent dire, oui, ce sont les heures avant minuit qui sont les plus importantes. En fait, il s'avère que ça n'est pas tout à fait exact. Ce sont les premières heures de son sommeil à soi, les premières heures de sa nuit biologique. Donc, quelqu'un qui est un couche-tard-lève-tard et qui aurait un sommeil qui, par exemple, se déclencherait à minuit, eh bien, évidemment, ces heures à lui, qui sont très importantes, ce sont ses premières heures à partir de minuit. En revanche, pour quelqu'un qui est un couche-tôt-lève-tôt et qui souhaiterait s'endormir, par exemple, à 9 heures du soir, à 21 heures, eh bien, ce sont lui aussi, ce sont ses premières heures de son début de nuit qui seront importantes. Et s'il les rate, eh bien, il aura effectivement des déficits qu'on va pouvoir observer dès le lendemain.
Donc il faut absolument éviter de vouloir regarder à tout prix la fin du film, même si on en aurait envie et que le sommeil semble comme ça pointer son nez. J'entends souvent, et j'en ai à la maison, des ados ou des pré-ados qui disent « Non mais ça va, maintenant je suis grand, je peux veiller un peu plus tard, c'est pas grave, je me lèverai facilement demain, j'ai pas sommeil ». Est-ce que entre l'enfance et l'adolescence, il y a une évolution également de ce rythme ? Ou pas ?
Alors oui, il y a une évolution de ce rythme, mais il y a une évolution des besoins de sommeil. Effectivement, un enfant de 10 ans a à peu près besoin de 10 heures de sommeil, entre 9 et 11 heures. Un adolescent, par exemple, de 14 ans, lui, a encore besoin entre 8 heures et 10 heures de sommeil. Les petits dormeurs se contenteront de 8 heures, les grands dormeurs auront besoin de 10 heures. Ça, ce sont des chiffres moyens qui sont recommandés par la Fondation pour le sommeil américaine et qui sont tout à fait aussi suivis par la Société française de recherche et médecine du sommeil et les pédiatres en France. Ce qui se passe aussi, c'est un décalage des horaires de sommeil. L'horloge biologique, pendant la période de l'adolescence, va maturer, et en maturant, elle va se décaler un petit peu, elle va prendre un peu de retard, cette horloge. Et ce qui fait que, par rapport à un enfant de 10 ans qui, par exemple, s'endormirait naturellement, spontanément à 21 heures, un adolescent va se décaler progressivement et va s'endormir à 21 heures 30, puis 22 heures, puis 22 heures 30, puis pour certains, 23 heures. Ça n'est pas observé, ce décalage ne sera pas le même chez tous les adolescents, évidemment. Certains vont se décaler beaucoup, mais d'autres vont se décaler un petit peu moins. En tout cas, ce décalage semble complètement physiologique. Ça rassure d'une certaine manière tous les parents qui, comme vous, Fabrice, avaient des adolescents à la maison. Mais il faut aussi savoir que, en plus de cette couche, j'allais dire, de la physiologie qui fait que l'horloge se décale spontanément, eh bien, le comportement, lui, va avoir un gros impact. Et peut-être qu'on y reviendra, mais oui. En particulier, puisque l'horloge est très sensible à la lumière, eh bien, ce décalage des horaires de coucher, s'il est accompagné d'un éclairage un peu intense à la lumière ou d'un éclairage particulièrement bleuté, eh bien, cela va décaler encore plus l'horloge.
On va en parler dans la seconde partie de cette émission, justement, et des conséquences, le manque de sommeil, la dette de sommeil. Vous êtes peut-être tous concernés. Des solutions, dans quelques instants, sûrement avec le docteur en neurosciences, Claude Gronfier.
Tu pourras me dire tout ce que tu veux, sous tes fous rires et tes grands airs, c'est pas la peine, tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux, tu me fais de la peine. Je t'aime quand même, moi. Je suis pas tes potes, ni ton boss ou tes collègues, moi. Mais tu me prends vraiment pour un con. Tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque, tes cernes en parlent encore. Tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Si on sortait prendre l'air, au lieu de me prendre pour de la merde, prends-moi la main. Sinon à quoi on sert nous, à part faire la fête. Mec, je l'ai assez faite moi, on se voit demain. Mais si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterai mes histoires, je compterai les moutons pour toi. Mais si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterai mes histoires, je compterai les moutons. Mais tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. La soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, à vous.
Stromae sur RCFM, le sommeil. Que savons-nous justement du sommeil, de ses cycles et de ses troubles? Comment retrouver le plaisir et les bienfaits des bras de Morphée? Nous allons en parler avec le docteur en neurosciences qui est avec nous depuis quelques minutes déjà, Claude Granfier. Et peut-être une première piste, Claude, celle de supprimer les écrans à partir d'une certaine heure.
Ah, alors c'est effectivement une piste à laquelle on réfléchit. Alors, il serait sans doute pas question de les supprimer complètement, ces écrans, parce que ça semble difficilement imaginable. Si vous dites à vos adolescents ou à d'autres, d'ailleurs les adolescents ne sont pas les seuls consommateurs d'écran, que vous allez devoir supprimer les écrans, il y aura sans doute une révolution et on va tous se retrouver dans la rue. Mais en revanche, ce qu'il est sans doute tout à fait possible, et d'ailleurs c'est évidemment la recommandation internationale à l'heure actuelle, c'est de les supprimer partiellement, c'est-à-dire dans la dernière demi-heure ou dans la dernière heure avant l'heure de coucher souhaitée. Eh bien, il faut à tout prix éteindre ces écrans. Pourquoi? Bah parce que tous les écrans récents sont constitués d'éclairage à LED. Et ces LED, ces diodes électroluminescentes, sont particulièrement riches en lumière bleue. Et on a appris depuis les années 2000 que la rétine de notre œil contient des cellules particulièrement sensibles à cette lumière bleue. Et ces cellules transmettent une information non seulement vers l'horloge biologique, mais vers tout un tas de structures dans le cerveau qui sont impliqués dans l'éveil, dans l'inhibition du sommeil, justement, dans l'activation de l'humeur, du bien-être. Et donc, ces écrans, lorsqu'on y est exposé le soir, ils vont lutter contre l'installation de la somnolence. Donc, c'est pour ça que dans cette fenêtre d'une heure avant l'heure de coucher, il faudra bien prendre garde à ne pas s'exposer à ces écrans, sans quoi on va retarder l'endormissement. Oui, et plus généralement, un aspect technique auquel on réfléchit beaucoup, c'est comment serait-il possible de diminuer finalement la présence de cet éclairage bleu dans les écrans? Donc, plusieurs solutions techniques sont en cours de développement par des industriels. Et puis, il y a des approches simples. Il existe des logiciels maintenant, des applications qui permettent de diminuer la quantité de bleu qui émane des écrans, ce qui les rend un peu orange et qui, finalement, diminue leur impact sur le sommeil. Mais malgré ces applications, malgré ces outils, il faut veiller à éteindre ces écrans suffisamment longtemps avant l'endormissement, sans quoi il risque malgré tout d'y avoir un effet sur le sommeil.
Il y a la lumière de l'écran, Claude Granfier, mais il y a aussi peut-être la lumière plus globale, celle de la pièce par exemple, à travers des ampoules. Là aussi, il faut baisser un tout petit peu le niveau quand on commence à arriver en soirée.
Oui, tout à fait, parce que un grand bouleversement qui s'est produit dans l'humanité, si on réfléchit à l'échelle de la vie sur Terre et de la vie de l'homme d'ailleurs, mais pas uniquement, les animaux sont et les plantes sont aussi affectées par cette lumière artificielle. C'est la présence de cette lumière urbaine, artificielle, qui éclaire nos villes, qui éclaire même nos campagnes maintenant, et qui éclaire évidemment nos intérieurs. Puisqu'on a la capacité à s'éclairer non seulement pendant la soirée, mais aussi pendant la nuit, on a donc la capacité d'activer notre horloge biologique, d'activer des structures cérébrales qui normalement devraient être activées uniquement pendant la journée. Et donc c'est bien en cela que la lumière artificielle est problématique et peut être problématique quand on n'y prend pas garde, quand on n'est pas suffisamment informé ou quand on ne se rend pas compte que cet éclairage-là n'est pas favorable au sommeil. La lumière est favorable à l'éveil, c'est l'obscurité qui est favorable au sommeil.
Bien sûr, bien sûr. Et là, on arrive à quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si ça ne représente pas quasiment 20% de la population. Vous avez également bossé sur ce sujet, le travail de nuit. C'est-à-dire que là, il fait nuit, mais pour autant, on doit être éveillé, au contraire de ce que la biologie semble nous dicter. Vous avez une information à nous donner sur ce fonctionnement du corps la nuit quand on doit travailler?
Oui, alors on a beaucoup travaillé sur ce sujet avec un ensemble de collègues, une quinzaine de collègues dans différents domaines en lien avec la médecine du sommeil, en lien avec la médecine affective, les troubles psychiatriques, et puis des spécialistes des sciences humaines pour un rapport qui a été rendu par l'ANSES en juin 2016 sur les effets des horaires atypiques, en particulier les effets du travail de nuit. Et ce qu'on a appris en faisant la littérature qui a mené à ce rapport, c'est que effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les travailleurs de nuit, ceux qui ne font que du travail de nuit et qu'on pensait être finalement ajusté, adapté à ce travail de nuit, puisqu'on sait bien que l'horloge biologique s'adapte selon les conditions d'éclairage, on pensait que ces travailleurs de nuit seraient tout à fait synchronisés à leur travail de nuit. En fait, ils ne le sont pas, comme vous l'avez dit Fabrice. Ils doivent être éveillés pendant la nuit pour effectuer leur poste, mais il se trouve que pendant la nuit, leur horloge biologique cherche encore à promouvoir le sommeil et non pas l'éveil. Et donc, c'est vraisemblablement ce qui conduit à un ensemble de troubles qui sont connus de tous, ces troubles de la vigilance, une envie de dormir, des erreurs qui sont commises, plus d'erreurs, des accidents du travail, et puis des impacts à plus long terme qui sont largement méconnus, y compris par les médecins du travail. Ce sont des troubles de l'humeur, des troubles du métabolisme, des troubles cardiovasculaires, et même plus de cancers chez ceux qui font du travail de nuit.
Ça, c'est un rapport intéressant que vous venez de nous faire.
Et même la prise de poids, je crois. Il y a même la prise de poids.
Oui, tout à fait.
Un rapport même inquiétant pour l'économie d'une manière générale. Ça voudrait dire que là, on est sur quelque chose de négatif pour l'humain.
De véritables conséquences aussi sur la santé. Est-ce qu'on est tous, Claude Granfier, génétiquement, en tout cas sur le plan héréditaire, égaux face au sommeil? Parce que, prenons par exemple nos grands-parents, qui n'étaient pas exposés aux écrans ou au travail la nuit, mais qui étaient peut-être des petits dormeurs et qui disent que c'était comme ça dans leur famille. Est-ce que ce sont des remarques valables?
Ah oui, tout à fait valables. En règle générale, il faut écouter nos anciens. Et c'est très important parce qu'ils ont un vécu qui nous apporte souvent beaucoup d'informations. Effectivement, il existe des familles qui sont des familles de petits dormeurs ou, à l'opposé, des familles de grands dormeurs. Il existe aussi des familles qui sont des couches tôt lève tôt et puis d'autres qui sont des couches tard lève tard. Donc ça, c'est évidemment un signe qu'il existe quelque chose d'héréditaire, de génétique vraisemblablement, qui est responsable de ces phénomènes-là. On a découvert au cours des 15 dernières années qu'il existe un ensemble de gènes qui expliquent ces phénomènes. Et ces gènes, lorsqu'ils sont un petit peu différents, on appelle ça un polymorphisme génétique, ou lorsqu'il y a une mutation d'un gène, on va avoir là une famille qui sera extrême du soir ou au contraire extrême du matin. Ou bien une famille qui sera plutôt de petits dormeurs. Il va y avoir évidemment beaucoup de brassage, donc Quelquefois, dans les familles, on aura une exception, évidemment, quelqu'un qui serait un grand dormeur dans une famille de petits dormeurs, mais effectivement, vraisemblablement, un ensemble de caractères liés au sommeil et à la position du sommeil dans les 24 heures a une origine génétique.
Ça, c'est très, très intéressant. Alors, on se reconnaît ou pas chacun, hein, oui. Parmi les Loirs ou pas les Loirs. Il y a quelque chose qui nous intéresserait également à vos côtés de comprendre, Claude Gonfier, c'est les bienfaits ou pas, la nécessité ou pas de la sieste. Moi, j'en suis incapable de faire des siestes. Est-ce que c'est important, intéressant pour l'organisme?
Alors oui, c'est important et intéressant pour l'organisme, en particulier chez ceux qui sont dans une situation de dette de sommeil, ceux qui ne dorment pas suffisamment, soit parce qu'ils n'y parviennent pas, leur travail les empêche de dormir suffisamment, les stressent et donc ils n'arrivent pas à dormir suffisamment, soit parce qu'ils font du travail en horaire atypique, travail posté ou travail de nuit, ou soit parce qu'ils ont une mauvaise hygiène de sommeil. Et donc dans ces situations-là, ou parce qu'ils souffrent aussi d'une pathologie, c'est la dernière condition, dans ces cas-là, la sieste est recommandée. Toutefois, il faut avoir à l'esprit qu'il ne faut pas faire n'importe quelle sieste. La sieste qui est recommandée à l'heure actuelle, c'est une sieste courte, qui prend place généralement dans la journée, pas trop près des heures de coucher habituelles, sans quoi on aura du mal à s'endormir, et donc là on va créer un décalage de l'endormissement. C'est une sieste qui généralement a lieu à proximité du repas ou en début d'après-midi. Mais dans tous les cas, elle doit avoir lieu avant 16h ou 17h classiquement. Et puis elle doit être suffisamment courte, cette sieste. Et par exemple, la recommandation actuelle, c'est une sieste qui dure entre 15 et 20 minutes seulement. Mmh. Alors, il y a des astuces, hein, plein de gens nous disent « Ah non, moi, je peux pas, dès que je m'endors, je suis parti pour 2 heures. » Il y a tout un tas d'astuces. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle certains n'arrivent pas à faire des siestes courtes et font des siestes très très longues, je ne sais pas si c'est votre cas, Fabrice, c'est ce qui vous empêche de dormir, mais c'est parce que ces gens-là se réveillent à l'issue de leur sieste dans un état qui est encore pire que celui dans lequel ils étaient avant. C'est-à-dire, ils ont une inertie de sommeil terrible, une sensation, alors, le terme gueule de bois n'est pas très joli, mais c'est un petit peu cette sensation que certains éprouvent. Ils sont pas à l'aise, ils sont pas très très très, très bien. Ils ont une sorte de d'ivresse de sommeil qui va les poursuivre pendant quelques dizaines, trentaines de minutes après le réveil. Et donc ces gens-là évitent de faire des siestes, alors qu'en vérité, s'ils apprenaient à faire des siestes courtes de 15 à 20 minutes en utilisant des réveils qui sont à distance du lit ou du fauteuil dans lequel on fait sa sieste, ils verraient qu'ils peuvent tout à fait, eux aussi, faire une sieste courte.
Voilà, pour être plus éveillé, il faut dormir, mais il faut aussi trouver son propre rythme. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de C'est votre jour de science.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment, couchés dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils qui venaient pour me bercer, combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies. Labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits. J'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrais-je le paradis? Le paradis, ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Je rêve qu'on a tué mes insomnies. Et que pâles, en robe blanche, on les a couchés dans un lit. A-t-on rêvé que j'en rêve, et revoilà mes insomnies. Je roule comme les chats, je glisse comme une souris. Et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant c'est pareillement, se boucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais tous deux confondus. Peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris. Au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie madame. Nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis, gravement au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant ça ne l'est pas non plus, ce n'est pas l'heure en tout cas. Mes grands-mères, s'il est revenu, je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies, un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. C'est contre lui que je couche, les plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit. Je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir, c'est mourir, ah, laissez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir, c'est mourir, ah, laissez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis.
Sous vos applaudissements, les insomnies de Barbara, et lui, il vous tient en haleine hein, depuis le début de cette émission. Pas le moindre clignement de paupières. Vous ne bâillez toujours pas, et vous avez bien raison, parce que Claude Gronfier est vraiment passionnant. Et on se demandait pendant la diffusion de cette chanson, Claude, si finalement, face aux insomnies, les gens qui rencontrent vraiment des problèmes pour s'endormir, est-ce que pratiquer peut-être un petit peu des exercices de détente ou prendre de l'homéopathie, ça peut être efficace, selon vous?
Alors, il y a eu relativement peu d'études. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'études sur... le rôle de... Zut, le mot vient de m'échapper, de ces substances qui ne sont pas des médicaments, l'homéopathie,
oui.
sur le sommeil. D'ailleurs, sur d'autres aspects, l'homéopathie n'a pas non plus été étudiée versus placebo, mais c'est une autre affaire. En revanche, ce qui est tout à fait connu, c'est l'intérêt de certaines approches de type relaxation, de lâcher prise. Et puis, dans les cas les plus graves, hein, quand on parle d'insomnie réelle, pathologique, eh bien, dans tous les cas, il faut aller voir un médecin, rapidement aller voir un médecin du sommeil, si le médecin généraliste n'est soit pas à l'aise, soit ne parvient pas à traiter le trouble, parce qu'il existe, en dehors des médicaments qui restent maintenant une approche intéressante, mais uniquement dans certains cas, il existe un ensemble d'autres approches pour le traitement des insomnies, comme par exemple ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale, ou encore d'autres approches qui reposent sur cette notion qu'il faut quelquefois apprendre à lâcher prise. Mais j'aimerais ajouter que l'approche naturelle qu'on a développée au cours de l'évolution, qui permet d'avoir un sommeil de bonne qualité pendant la nuit, eh bien, c'est avoir une bonne veille pendant la journée. Et qu'est-ce qu'une bonne veille pendant la journée? Eh bien, c'est une veille qui permet d'être exposé à la lumière, et en particulier à la lumière solaire. La physiologie, la recherche fondamentale et la recherche médicale en biologie et en physiologie nous ont appris au cours de ces dernières années que l'un des stimuli majeurs de notre physiologie, c'est la lumière pendant la journée. Elle active, comme on l'a dit, l'horloge biologique et lui permet d'être bien synchronisée, bien en phase avec la journée de 24 heures. Mais elle permet aussi d'activer des structures qui vont permettre l'installation du sommeil pendant la nuit. Donc la lumière pendant la journée, et en particulier la lumière solaire, reste le stimulus principal qui va permettre d'avoir un sommeil optimal pendant la nuit.
Ça, c'est très très intéressant, et ça peut peut-être même surprendre des auditeurs de l'autre côté du poste, parce que donc les personnes travaillant dehors, hein, naturellement exposées au soleil, seraient un peu plus favorisées au niveau du fonctionnement de leur horloge interne que ceux qui travaillent dans des bureaux avec quelque chose de plus artificiel.
Oui, c'est ce que les quelques études qui se sont intéressées à cette question ont montré. En particulier, je pense à une étude de Damien Léger à Paris qui a demandé à un grand groupe d'individus, je crois qu'il avait 16 000 personnes qui travaillaient à la RATP à Paris, de remplir des questionnaires sur la qualité de leur sommeil, leur ressenti, leur humeur, etc., leur état général, leur état de fatigue générale, selon qu'ils étaient, pour 50% d'entre eux, des travailleurs en surface, conducteurs de bus ou de métro en surface, exposés à la lumière solaire pendant les 8 heures de leur poste de travail, ou bien, pour 50%, des travailleurs qui n'étaient pas en surface mais sous terre, conducteurs de métro là encore, ou techniciens, etc. Et ce que l'étude a montré, c'est que le trouble du sommeil ressenti sont effectivement plus importants chez ceux qui ne voient pas le soleil pendant la journée.
Ça, c'est intéressant, hein, et même interpellant. Je n'avais pas personnellement cette
mais
info.
Oui, mais c'est des découvertes extraordinaires. Mais par exemple, vous, Fabrice, qui avez des enfants, est-ce que les activités sportives aussi, ça peut être quelque chose qui va leur permettre de mieux dormir à ces petits?
Ça, c'est Claude qui va répondre pour moi.
Non, mais c'est des questions qu'on se posait, Claude. Et peut-être aussi leur faire faire des activités, mais pas à n'importe quelle heure.
Effectivement, il y a deux aspects dans la question qui est posée. Concernant les horaires, il faut évidemment recommander de ne pas pratiquer d'activité physique intense, c'est-à-dire qui va augmenter la température à proximité du sommeil. En général, on évite le sport dans les deux heures qui précèdent le sommeil. Et puis, dans tous les cas, le sport pendant la journée aura des effets bénéfiques qui sont bien connus et qui vont passer par un ensemble de mécanismes physiologiques qui sont un petit peu mieux connus maintenant, qui vont en particulier permettre la libération dans l'organisme d'un ensemble de substances qui vont permettre non seulement la relaxation musculaire nécessaire après un exercice physique, mais aussi une sorte de relaxation de l'esprit. Les encéphalines, par exemple, permettent ont des effets positifs sur le sommeil. Et puis, par ailleurs, qu'est-ce qui se passe pendant l'exercice physique? En général, pendant un exercice physique, on est exposé à de la lumière, qu'on soit en salle ou à l'extérieur. Mais pour tous ceux qui pratiquent l'exercice physique, c'est aussi l'occasion pendant ce sport-là d'être exposé généralement à plus de lumière. Donc on pense que l'éclairement, cette exposition à la lumière, en plus de l'effet physique propre de l'exercice physique, va avoir des effets bénéfiques.
Alors on a bien compris tout ce que prendre le soleil est une bonne chose, écouter son corps le soir notamment quand on commence à avoir des signes de fatigue pour aller au bon moment au lit et ne pas lutter, stopper les écrans également au bon moment. Malgré tout, forcément beaucoup d'entre nous, d'entre ceux qui nous écoutent, n'arrivent quand même pas à s'endormir, se réveillent en permanence durant la nuit. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a donc des troubles beaucoup plus enfouis, beaucoup plus profonds, qu'il faut également traiter, que suivre certaines recommandations parfois ne suffit pas?
Bien sûr, là, toutes les recommandations dont on a parlé s'appliquent évidemment à l'ensemble de la population, on dira la population générale, mais évidemment, dès lors qu'on a un trouble du sommeil qui est installé, qui conduit à un dysfonctionnement pendant la journée, c'est-à-dire non seulement on est moins performant, non seulement on est plus anxieux, plus stressé, mais en plus, on a éventuellement des pensées suicidaires. Pour certains, le trouble du sommeil va s'accompagner de cela. On va éventuellement, pour d'autres, avoir des troubles du métabolisme, une prise de poids importante au cours des derniers temps, ou bien des troubles cardiovasculaires. Le médecin va nous dire « Attendez, je vais vous prescrire un examen chez le cardiologue parce que j'observe certains signes cardiovasculaires. » Eh bien, dans ces situations-là, il est tout à fait possible que le trouble du sommeil soit à l'origine de ces troubles-là. Et donc, il faut évidemment consulter un médecin généraliste, qui va éventuellement orienter ensuite vers un médecin du sommeil, afin qu'un diagnostic précis soit déterminé, soit posé, et puis qu'un traitement approprié puisse ensuite résoudre ce trouble-là. Car la plupart des troubles du sommeil peuvent être résolus par des approches médicales adaptées.
Est-ce que le fait de compter les moutons, ça marche? Et est-ce que biologiquement, c'est expliqué?
Alors, c'est une question piège. Pardon, docteur. C'est une question piège parce que, évidemment, ça fait partie, j'allais dire, des images d'Épinal. On a tous en tête cette image-là, qui est souvent reprise par les humoristes. Et on y voit, alors, je ne sais pas si des études ont été menées pour comparer la rapidité de l'endormissement chez des gens qui comptent les moutons versus ceux qui comptent, des bateaux ou des mouches ou des truites. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'un effet bénéfique qui serait qui proviendrait du fait que on va penser à autre chose, on va penser à ces moutons, à ces truites, à ces bateaux, etc. Peu importe, on va penser à quelque chose qui n'est pas ce qui nous empêche de dormir. Par exemple, le travail, par exemple des problèmes familiaux, par exemple des problèmes d'autre nature. Et donc cette réorientation de l'activité cérébrale vers quelque chose qui est en soi particulièrement ennuyeux va éventuellement permettre de s'endormir plus rapidement.
Oui, alors
J'allais rajouter, évidemment, il faut prendre garde au fait que ce calcul mental ne doit pas devenir quelque chose qui, au contraire, va activer le cerveau et va justement éviter l'endormissement. Donc, j'imagine qu'il y a un équilibre à trouver entre ce calcul-là et finalement la capacité à s'endormir.
Et la musique peut aider à s'endormir?
Alors oui, la musique peut aider à s'endormir.
Mais pas toutes.
Plusieurs études ont montré ça. Alors sans doute
pas du rock, hein.
Et pas à n'importe quel volume.
Sans doute pas toutes et pas à n'importe quel volume, mais effectivement, plusieurs études ont montré un intérêt, un aspect bénéfique de la musique. Là encore, sans doute pour les mêmes raisons, c'est-à-dire de lâcher prise et d'éviter de cogiter, de ressasser des pensées qui peuvent empêcher l'installation du sommeil. Et donc, c'est effectivement une approche intéressante. Il faut prendre garde toutefois à avoir des systèmes qui permettent à la musique de s'éteindre assez rapidement et ne pas faire comme certains le font, laisser la radio allumée pendant la nuit ou laisser le téléviseur allumé. Car ça a été bien étudié, c'est très très contre-productif et ça va conduire à des éveils nocturnes très importants, y compris des éveils dont on aura oublié l'existence le matin, mais qui pour autant vont avoir des effets négatifs potentiels sur l'organisme et la santé.
En tout cas, on vous remercie, Claude, d'avoir été à nos côtés pour nous faire ouvrir les yeux, finalement, sur ce problème du sommeil, cette réalité du sommeil, et puis aussi les rythmes chronobiologiques. Merci encore, au revoir.
C'est votre jour de science
dans l'actu. Un petit quiz, parce que j'avais envie de jouer avec
J'adore
vous, Fabrice.
Les quiz.
Quel est le plus gros dormeur chez les animaux?
Je dirais le loir, parce que tout à l'heure on en a parlé, ou la marmotte ou l'ours, un truc comme ça.
Eh, vous n'êtes pas si loin que ça. C'est le koala.
Ah, pas, non, j'aurais pas dit.
20 heures de sommeil. C'est pas merveilleux, ça?
Fainéant. Fainéant, le koala.
Et la chauve-souris.
Tiens.
Qui arrive juste derrière avec ses 19 heures de sommeil, la tête en bas.
Ouais.
Extraordinaire.
Il faut dormir la tête en bas pour bien dormir, monsieur Gonfier, puis nous
le dire. Ils y arrivent bien sans problème. Et du coup, je vais vous demander quels sont les animaux qui ne dorment pas beaucoup, comme vous, votre alter ego, par exemple.
Le requin, non?
Ah, c'était pas mal, le requin. Mais non.
Je donne ma langue au chat.
La girafe. La girafe ne dort que 2 heures par nuit. Ou par jour, en fait, parce que tout dépend quand elle a envie. Et le cheval aussi, 3 petites heures. Je me suis dit, mais alors finalement, comment on peut expliquer ça? Quels sont les facteurs pour expliquer que certains dorment beaucoup et d'autres très peu? Premier facteur, la taille. Finalement, plus ils sont petits et plus ce sont des dormeurs.
Plus ils sont petits et plus ce sont des dormeurs. Donc nous ne sommes pas de gros dormeurs.
On finit par comprendre. Ensuite, est-ce qu'ils sont prédateurs ou est-ce qu'ils se sont des proies? Bien sûr, s'ils ne sont pas tranquilles, il est évident qu'ils ont dormi d'un œil. Et on s'en est rendu compte avec des études dans des zoos, les animaux qui ont été amenés dans des zoos, qui du coup n'avaient plus de prédateurs et à qui on a donné à manger régulièrement. Ben finalement, on rallongeait leur cycle de sommeil. Et troisième chose, l'âge. Comme chez nous, à un moment donné, en vieillissant, ils dorment moins. Alors, juste avant de vous laisser la place pour votre chronique du jour, je voulais juste vous parler de petites techniques particulières que j'ai découvertes chez certains animaux. Par exemple, que les oiseaux migrateurs font des micro-siestes de quelques secondes en plein vol.
Trop bien.
Trois secondes leur suffisent et ils repartent.
Ça plane.
Ce qui explique pourquoi les vols peuvent durer plusieurs jours sans qu'ils se posent. Et même les martinets d'ailleurs, les petits martinets qu'on voit d'ailleurs sur Bastia, ce sont des oiseaux qui tournent en permanence, ils font des micro-siestes et ils volent en permanence.
Ils font la sieste au-dessus de nous.
Exactement, même la nuit. Autre chose que j'ai découvert, les canards. Et bien finalement, alors eux ils se mettent carrément en ligne et les deux canards qui sont aux extrémités font le guet. Permettent aux autres de dormir.
D'accord.
Et à tour de rôle, ils échangent leur place. Et je garde la dernière pour la fin, la plus belle, pour la fin, la plus attendrissante. J'ai trouvé trop mignonne. Ce sont les loutres. Imaginez-les.
J'adore les loutres.
Sur le dos.
Ouais.
Elles se tiennent la patte ou la main en dormant. Et vous savez pourquoi?
Elles dorment patte dans la patte. Non.
C'est trop mignon.
Pour se réveiller s'il y a un truc genre.
Eh non, pour ne pas perdre leur moitié, qui risque de dériver. J'ai trouvé que c'était mignon, alors vous ne me lâchez pas la main.
J'adore. Ou alors on dérive ensemble. De mon côté, je n'avais pas de quiz, mais finalement je vais commencer par une question pour vous rendre l'appareil. Si je vous dis « femme à lunettes », vous me répondez « femme à ».
Femme à tirbelle.
Vous avez bien raison. Femme à QI plus élevé. Et ça marche aussi avec l'homme. Et oui, ceux qui portent des lunettes, et on précise aux auditeurs que vous n'en avez pas, selon la science, seraient plus intelligents que les autres. D'ailleurs, ça fait longtemps, si on regarde bien, que ce code existe dans notre imaginaire collectif. Rappelez-vous, le premier ou la première de la classe, sur nos vieilles photos d'école, avait forcément des lunettes. Même les animaux aujourd'hui sur le net ou ailleurs en sont équipés quand on veut leur donner un air un peu intello. Mais à quel point ce stéréotype repose-t-il sur des bases concrètes et solides? Eh bien, plusieurs études menées, sur des enfants notamment, semblent montrer une relation entre des scores élevés de QI et la myopie. Peut-être le résultat d'un lien entre la longueur axiale oculaire et le développement cérébral. En l'état actuel des connaissances, on dit qu'il se pourrait aussi que ce soit les mêmes gènes, exactement les mêmes gènes, qui influencent le QI et la myopie. Par contre, à ce stade des études, on ignore complètement si les problèmes de vue sont un signe d'intelligence ou si l'intelligence provoque des problèmes de vue. La science continue donc de fouiller de ce côté. De mon côté, à moi, je vous prends rendez-vous tout de suite chez l'oculiste, histoire de voir si vous n'avez quand même pas un sacré problème aux yeux. Être aussi brillante et avoir une bonne vue, il y a un truc un peu louche.
Il est trop sympa. En tout cas, je me dis que quand on vieillit, on est tous presbytes. Donc,
il y en a un peu plus tôt que les autres, mais ouais, effectivement.
Donc finalement, c'est peut-être rassurant. Peut-être qu'en vieillissant, on devient tous intelligents.
Bon, merci. Moi, j'ai des lentilles, donc je suis entre les deux.
Et oui, il masque les choses.